La question de Dan.
Alors, on sait que Dieu, des fois, il envoie des mauvais décrets. Et on sait aussi que c'est marqué que le repentir, la prière et les bonnes actions annulent les mauvais décrets. Alors, comment c'est pourtant, on voit à chaque fois, il y a des gens qui sont malades, très malades. Comme ça, il y a beaucoup ça en ce moment. Et il y a des tefilotes, tout qui est fait. Et malgré tout, la personne, quand même.
La réponse, elle est simple. C'est marqué que, effectivement, ces trois choses. La prière, la tchouva, le repentir et la tzedaka, c'est-à-dire l'aumône, donner l'aumône, ça déchire un mauvais décret. Mais c'est qu'une. Comment appeler cela? Ça. C'est une segoula, comme on dit, segoula. Ça veut dire ça a des possibilités de. Ça a une action dans ce sens. C'est comme une chimiothérapie, je dis, ça guérit le cancer. Ben, des fois oui, des fois non. Alors, ça dépend de quel cancer il y a et quelle chimiothérapie tu fais. Donc, la chimiothérapie, ces trois recettes-là sont des recettes qui ont une capacité de guérison des mauvais décrets. Mais ce n'est pas à tous les coups que ça marche. Parce que sinon, ça serait trop simple. Quelqu'un qui a 90 ans est décrété dans le ciel qui devait vivre 90 ans. Elle arrive ses derniers jours. Eh bien, on va se mettre tout à prier, on va tout se mettre à faire tchouva, on va tout se mettre à donner la tzedaka. Et il aura encore 10 ans. Bon, ok, arrive les 100 ans, rebelote, 110 ans, rebelote, 120 ans, 1000 ans, ça ne marche pas comme ça. Il y a bien des décrets, et des fois où c'est fini. Dieu a décidé que quelqu'un devait vivre un certain temps, après, boum, terminé, il part. Et très souvent, avant de partir, le stapler a dit ça, Dieu fait un chesed qui fait que la personne soit malade. C'est connu, c'est l'histoire de Yaakov Avinu, Yaakov Avinu. À l'époque de Yitzhak, les gens éternuaient et mouraient. C'est pour ça que quand on éternue, qu'est-ce qu'on dit? Santé, santé. Comment c'est marqué santé en araméen dans la Gemara? Asueta. Asueta. Asueta, c'est le mot sueta qui veut dire santé. D'ailleurs, je pense que le mot santé vient du mot sueta en araméen. Maintenant, il y a aussi un autre truc qui est bizarre. Mais qui est très bizarre en France, quand quelqu'un éternue, qu'est-ce qu'on dit à part santé? On dit à tes souhaits. Où est le rapport? Apti, à tes souhaits. À mon avis, c'est une déformation de à souhaita, à souhaita. Bon, à tes souhaits. D'accord, les gens. Ça se peut, je ne sais pas. Parce que sinon, il n'y a aucune relation logique entre le fait que quelqu'un éternue, on lui dit à tes souhaits. Où est le rapport avec mes souhaits? Je veux dire, j'ai éternué, ça va, c'est pas. Si on dit santé, ça par rapport à ce Midrash Chazal qu'à l'époque d'Abraham Avinu, jusqu'à Yitzhak Avinu, les gens éternuaient, mouraient, est venu Yitzhak a demandé qu'ils vieillissent. Et c'est marqué que Yitzhak a vieilli. Mais encore, type, il vieillissait, il avait les cheveux blancs et mourra tout à coup. C'est parce que quelqu'un a les cheveux blancs qu'il doit mourir, on ne sait pas quand. Donc qu'est-ce qu'il a demandé Yaakov Avinu? Que la personne tombe malade. Et de ce jour-là, beaucoup de gens avant de mourir tombent malades. S'il y a beaucoup d'avantages à cela, d'abord que la famille se prépare, lui se prépare. Troisièmement, que lui aussi fait carpat avonot. Dieu a attendu toute sa vie. C'est marqué que lorsqu'on fait un péché, c'est marqué que Dieu, il est rahoum, il est rahoum, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux. Mais c'est marqué aussi qu'il est juste. Maintenant, c'est marqué comme ça. Tout celui qui dit que Dieu est vatran, c'est-à-dire passe l'éponge. Sur un péché qu'on a fait, alors on passera éponge sur lui. C'est-à-dire, Dieu efface, on va t'effacer à toi. D'accord? C'est faux. Dieu n'efface rien. Dieu est juste, il n'y a pas un millimètre dans la vie qui n'est pas pris en compte. Comme tu ne voudrais pas qu'on te rate, qu'on t'efface quelques millimètres que tu as fait, alors la justice de Dieu, elle exige, c'est logique, c'est juste, que de même qu'on prend en considération chaque petite mitzvah que tu as fait, on prend en considération chaque petite avéra que tu as fait. Donc, où est la miséricorde de Dieu si Dieu est complètement juste? Elle se situe à trois niveaux. Premièrement, que si tu as fait un péché, tu mérites de mourir tout de suite. Parce que comment tu oses te révolter contre le Créateur? Le Créateur, il te donne la vie, tu te révoltes. Et t'as pas, t'as... Comme un serviteur d'un grand roi, il a fait une bêtise, mais il compte un petit acte de révolte minuscule contre le roi, hop, liquidé, du point de la justice pure. Dieu ne fait pas cela, mais donnera des caparottes et des moyens de réparation appropriés au péché. Deuxième chose, il aurait fallu que ce soit immédiat. Immédiat. T'as fait un péché, tac, sur place. C'est faux. Dieu, des fois, attend très longtemps pour amener l'accaparat, la réparation. Troisième chose, qui a à voir avec la deuxième, c'est que Dieu permet aussi de réparer, autrement que par la réparation difficile, par la souffrance ou par autre chose, par la tchouva, par le simple fait que la personne prend conscience de ce qu'elle a fait, elle regrette, elle prend sur soi de changer, hop, on efface. Donc Dieu me laisse maintenant une période de temps, toute ma vie, pour réparer. Maintenant, il a attendu, et Dieu voit que, ok, bientôt la deadline, mon cher ami, tu passes dans l'autre monde. Et là-bas, c'est justice totale. Il n'y a pas de miséricorde là-bas. Là-bas, c'est justice totale. Les réparations qu'on a à faire là-bas, elles sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus grandes. Tu ne peux plus agir par toi-même. Qu'est-ce que Dieu fait dans sa grande miséricorde? Il amène avant la mort des souffrances sur la personne. Ça fait le cas de la maladie qui est... Donc c'est un grand chesed qu'en fait les gens soient malades. Bon, pour répondre à ta question tout simplement, c'est qu'il n'est pas possible que quand on Chazal te dise des choses qui ont une capacité de... Ce n'est pas que c'est à tous les coups que ça marche. La prière agit, la tzedaka agit, la tchouva agit, c'est absolument certain. Mais quelle action? Quelqu'un qui est très 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 malade, il n'a plus rien à faire.
Quelqu'un qui est malade au milieu de ses jours, c'est qui est jeune, quoi.
Ça ne change pas, même si Dieu m'a décidé que quelqu'un devait mourir parce qu'il est jeune. Quelqu'un, il était un grand sadique dans une génération passée. Et il arrive au Lamaba, et il monte de monde en monde en monde en monde. Puis un beau jour, on lui dit, ok, mon vieux, stop, terminé. Maintenant, t'as fini, ce que t'as comme mérite, c'est fini. Il y a encore quelques mitzvot que t'aurais pu faire, mais tu n'as pas fait, t'as raté dans ta réincarnation, bon, tu restes bloqué ici. Quoi, j'ai quelques mitzvot que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait, des choses chacun a une part dans le Lamaba. Ok, mais combien tu reçois de ta part? Et lui, il voit qu'il y a une part qui lui revient, mais qu'il n'a pas encore pu obtenir. Il implore Dieu de venir sur terre. Ok, Dieu l'envoie. Il veut parvenir à 80 ans. Il veut réparer, clic-clac, terminé, il repart, il y a une histoire extraordinaire. Il y a, d'un mystique juif, toute la mystique juive, c'est en fait, la mystique étudiée aujourd'hui par les grands kabbalistes, c'est les écrits de Rabbi Noiré, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui lui n'a rien écrit, son élève Rabbi Chaim Vital. Et il y a ce qu'on appelle Shmona Sharim, les huit portails, huit portails de la mystique juive. Il y a Shara Mitzvot, le Shara des Mitzvot, le Shara Kavanot, le portail des intentions, que l'intention doit faire quand on fait chaque mitzvah. Et tu as un qui s'appelle Shara Gilgulim, le portail des Gilgulim, des réincarnations. C'est tout le pourquoi et le comment, et le etc., des réincarnations. Maintenant, bon, c'est un livre assez fermé, j'imagine. Il y a un commentaire qui a été écrit à l'époque du Ben Ishraï par un grand rabbin d'Irak qui s'appelait Rabbi Shimon Agassi. Shimon Agassi, sur le Shara Gilgulim, sur le portail des réincarnations. Et dans l'introduction à son commentaire, il explique pourquoi il a appelé le nom de son commentaire Bnei Aharon. Le nom du commentaire de Rabbi Shimon Agassi sur Shara Gilgulim, sur le portail Gilgulim, s'appelle Bnei Aharon et fils d'Aaron. Alors comment il explique? Il explique, d'abord, il dit, voilà, moi j'avais deux fils, et ils sont décédés, et j'ai appelé mon livre en leur mémoire, Bnei Aharon, les fils d'Aaron, bien que mon nom n'est pas Aaron, j'ai en cela, Solch Kamus, il m'a dit, un secret que je garde avec moi-même. Alors il y a 25 ans, un rabbin m'a dévoilé le secret. Alors l'histoire, elle est comme ça. Alors paraît-il, hein, c'est une histoire que les rabbins se transmettent. Donc l'histoire elle est comment? Lui il avait trois fils. Et le premier arrive à l'âge de se marier, on fait un chidour, Mazal Tov, et on va à Soula Choupa, et il dit, Areat Nekudesh Tabazot Kedat Moshe Israël, tu m'es sanctifié par cette bague-là comme la religion de Moshe Israël, lui met la bague, crise cardiaque, Soula Choupa, il tombe mort. Terrible. Faites attention à vos mariages. Non, ben, tout ira bien. Bon. La femme, elle est Yebama, c'est une Yebama. D'après l'Alaha, si elle veut et si le frère plus jeune veut, alors le frère plus jeune se marie avec elle. L'Ashkenazim ne font plus cela. Ils font la personne Khalitsa, mais Sardim le font encore aujourd'hui. S'ils veulent, il n'y a aucun problème de faire le yiboum. C'est-à-dire que le frère du défunt se marie avec la femme qui n'a pas eu d'enfant. Bon, elle attend un peu que le frère se grandisse, et vient le beau jour, hop, on les marie. Et de nouveau, je ne sais pas si c'était vraiment sous la choupa, mais quelques jours après le mariage, quick, de nouveau, le deuxième frère qui meurt. Et là, le Rav Shimon Agassi, le père, il n'en peut plus. Il a pris le corps. Et il a pris dans sa chambre, dans son lit, toute la nuit, il a tenu le corps comme ça, de son fils. Bon, le matin, il se lève, plus rien. Bonne humeur, bon, il a fait tout ce qu'il le deuil, tout ça, mais allez, il était tout à fait consolé. Pourquoi ? L'histoire est comme ça, c'est que lui, la nuit, il a tenu le corps pour empêcher un truc de mystique juive, empêcher l'âme de partir, jusqu'à ce qu'on lui dévoile le pourquoi et le comment. Pourquoi ? Et pendant la nuit, il a vu en rêve, il voit un homme venir vers lui, avec une mitznefet, avec une sorte de chapeau sur la tête, le pectoral, les habits du Kohen Gadol, Aaron à Cohen, qui lui dit, tu as eu déjà beaucoup de chance que mes deux fils Nadav et Avihu sont venus en réincarnation chez toi. Il leur manquait la mitzvah de se marier. Ils sont morts avant d'être mariés, Nadav et Avihu. Tu as eu la chance énorme qu'ils sont venus en réincarnation chez toi. Maintenant que ça fait quelques milliers d'années que j'attends qu'ils reviennent, alors s'il te plaît, laisse l'âme de mon fils revenir vers moi. C'est pour ça qu'il a appelé le commentaire de son livre, Béné Aaron et fils d'Aaron. C'est un cas, donc, actuel du XXe siècle, où on voit, donc, même 3000 ans plus tard, deux Neshamot, il leur manque une mitzvah, des grandes Neshamot. Nadav Avihu, quand à Yom Kippour, à Mincha, hein, on lit la mort des deux fils d'Aaron. C'est marqué dans le Béné Israël, dans les poskim, que c'est bien de pleurer, parce que le pleur sur Mitat Tzadikim, sur la mort des Tzadikim, ça a une faculté de réparer, d'expier les fautes. Donc, même qui pourront veut que Dieu expie nos fautes. Hein, donc, on lit dans la Torah la mort des deux fils d'Aaron, qui, a priori, aucun rapport entre ça et Yom Kippour, pour expier nos péchés. Si on se pose, qu'est-ce que je pleurais maintenant sur deux hommes qui sont morts il y a 3200 ans? Eh bien, Chazal explique. Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, après qu'ils sont morts les deux fils, qu'il y avait un décret terrible sur Israël, et que un des grands d'Israël, ou lui, Moshe Rabbeinu, ou Aaron, devait disparaître. C'est les plus grandes personnes du peuple d'Israël. Et pour finir, c'était Nadab, Avihu, les deux fils d'Aaron, comme quoi ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Imaginez qu'on ait Moshe et Aaron, et encore deux autres, comme Moshe et Aaron, et plus grands qu'eux. Le peuple d'Israël aurait une autre tête, donc il y a de quoi pleurer jusqu'à aujourd'hui. La mort de ces deux personnes, elle a fait un tellement grand malheur dans le peuple d'Israël qu'il y a de quoi pleurer 3200 ans plus tard encore de cette mort. C'est pas qu'on pleure bêtement comme ça, parce qu'effectivement, la mort de ces deux grandes tzadikim, elle a un impact jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit que des tzadikim de ce degré, néanmoins, peuvent encore venir pour réparer, parce que tu montes, au niveau des missions que tu n'as pas encore fait, ou même des missions que tu as fait, mais il leur manque encore de la pureté. C'est marqué que seulement la Torah que tu lui dis, lo leshem shamayim, pas de façon désintéressée. Tu l'étudies maintenant pour être le meilleur de la classe, tu étudies pour que demain on t'appelle rave, tu étudies pour sortir le petit papier de rave, tu étudies pour demain, je sais pas moi, ouvrir une échive et faire de l'argent, bien que je vous déconseille, c'est pas le truc qui fait de l'argent, d'accord. Qu'est-ce que j'en sais? Chacun, il a ses comptes, d'accord. C'est pas de façon désintéressée, tu le fais maintenant avec intérêt. Donc normalement, ça ne vaut pas grand-chose. Tu ne le fais pas pour Dieu, tu ne le fais pas pour le bien d'Israël, tu le fais pour toi-même. Mais néanmoins, la Torah est tellement puissante que cette Torah suffit à sortir de l'enfer. Quelqu'un qui a de la Torah, beaucoup de Torah, il ne peut pas rentrer en enfer. Il est entouré d'une lumière de Torah. Mais pas plus. C'est rentrer dans ce qu'on appelle dans le Gan Eden Tarton, le paradis inférieur. Mais après, il faut monter, mon cher ami. Pour monter plus haut, il faut déjà les mitzvot désintéressés. La qualité des mitzvot, avec quel entrain, avec quelle joie tu l'as fait, avec quel amour de Dieu, dans quelle fin, dans tous les détails. Là, tu montes, en fonction de la pureté, tu montes plus haut. Alors tu montes, un siècle, deux siècles, 1000 ans, 3000 ans. Au bout moment, les mitzvot te quittent. Celle-là, au monde où tu es déjà tellement proche de Dieu, cette mitzvot, ce n'était pas suffisamment pur. Au bout moment, tu n'as plus le carburant. Tu arrives, cloc, cloc, cloc. Tu vas encore monter plus. Tu implores Dieu de revenir sur terre. Tu implores Dieu. Alors tu reviens, mais il faut pas, Dieu ne va pas te donner forcément 80 ans encore à vivre. C'est dangereux 80 ans. Pourquoi? Parce que tu peux te faire des péchés. Tu viens ici pour faire des mitzvot, tu peux aussi faire des péchés. Donc des fois quelqu'un vient faire une mitzvah qui lui manque, tac, il part. Et tu vois que très souvent ceux qui partent tôt, c'est les meilleurs. Pourquoi? Et ils sont nés, c'est des tzadikims, ces gens déjà parfaits, terminés, ils ont tout terminé. Ils ont fait tchik-tchak, bye-bye, shalom. Pas toujours. Des fois, il y a des gens qui implorent de revenir, mais infirmes. Pourquoi? Adieu. Regarde, moi par exemple, j'ai jamais parlé lachonara de ma vie. Je reviens sur Terre. Tenir toute une vie sans lachonara, il faut être un ange. Je veux faire le mitzvah, mais je ne veux pas prendre le risque de retomber dans le panneau. Je t'implore Dieu, fais-moi naître muet. T'es certain? Oui, je suis certain. Et Dieu le fait naître muet. Ou je m'ai entendu la lachonara de ma vie, elle devient sourd. Ou je vais regarder une fille de ma vie, alors revenir sur Terre maintenant à Paris sans voir une fille, c'est presque impossible. Je ne vais pas venir sur Terre. Aveugle. Donc, nous, quand on voit un malheur, entre guillemets, quelqu'un d'infirme, ou quelqu'un qui est parti tôt, il ne faut pas se réjouir, oh, le grand sadique qui est revenu à Iwaja. Non, on doit avoir de la miséricorde et on doit regarder, on doit pas faire les calculs de Dieu, du pourquoi et du comment. On sait que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Donc à ce moment, on ne va jamais pleurer un malheur, jamais consoler les gens. Tout est pour le bien. Non, tout est pour le bien. Une fois, on verra que c'est bien. Aujourd'hui, c'est très malheureux. Mais néanmoins, si on regarde de façon objective, en prenant en considération tous les pourquoi et les comment, alors on peut voir que les gens peuvent revenir des fois pour une période courte et repartir. Bien que c'est des gens bien. Et si c'est décidé comme ça, aucune prière, aucune, je ne vais pas dire aucune prière, mais il sera difficile qu'une prière et que la tzedaka et que le repentir change le décret. Il y a des décrets qui sont appelés des décrets d'argile, qui peuvent se casser, il y a des décrets qui sont des décrets de sang qui ne se cassent pas. Donc ça existe des décrets de sang. Dieu a décrété un décret de sang. Chamichemor, oui.
Mais avant 20 ans, on n'est pas responsable de l'heure. On n'est pas coupable de l'heure. En fait, votre pays les avait.
C'est marqué qu'avant 20 ans, on n'est pas puni par le bédin d'en haut. Mais déjà, je te présente responsable dans le bédin d'en bas. Si tu voles, il faut rentrer. Même avant. Hein?
Si on n'a pas rendu, on ne sera pas puni en haut.
Tu reviens, bien sûr. Tu vas revenir ici en Gilgul pour payer. Maïmonide, on m'a dit, c'est même Rav qui m'a raconté sur les Bnei Aaron, il m'a raconté sur Maïmonide. C'est marqué Maïmonide. C'est marqué dans le Magid Mesharim. Magid Mesharim, c'est un livre qu'a écrit Rabbi Yosef Karo, le compositeur du Shulchan Aruch. Il disait beaucoup de Mishnayot par cœur, sans cesse, des Mishnayot par cœur. Un point tel qu'il a créé une réalité spirituelle de bien, qu'on appelle un ange, dans sa bouche. Il avait une bouche tellement sanctifiée qu'au bout d'un moment, tu as une réalité tellement sainte, et ça crée une réalité, d'accord? Un Magid, on appelle ça un Magid, c'est une réalité spirituelle qui lui parlait. Il y avait une sorte de réalité qui lui parlait et qui lui dévoilait beaucoup de secrets. Il le dévoile à propos. Donc, il y a tout un livre qu'on peut lire. La majorité, c'est de la Kabbalah, mais quelques passages intéressants où il fait du moussard beaucoup. Trois jours, il n'est pas venu le voir. Alors, Rabbi Yosef Karo lui demande pourquoi tu n'es pas venu me voir. Mais tu sais ce que tu as fait? Il y a trois jours, tu avais soif, tu as bu deux verres d'eau d'un coup. Tu crois que je vais venir, espèce de gourmand, je vais venir te voir comme ça. Bon, ouais, c'est le degré de quoi on parle. Ou l'autre jour, tu te baladais dans le marché, tu disais Michelin par cœur, tu aurais dû voir qu'est-ce qui se passait. Des myriades d'anges allaient devant toi en chantant, en applaudissant les paroles qui montaient de Michelin dans la rue comme ça, extraordinaire. Et tout à coup, tu t'es arrêté de demander combien ça coûte le kilo de tomates. Tu aurais dû voir ce qui s'est passé. Tous les anges qui tombent par terre, cassés, du sang, les ambulances qui arrivent d'en haut, tous les millions d'anges, les malheurs que tu as faits. Comment t'es arrêté un moment d'étudier? Bon, il fait beaucoup de moussard comme ça. Et là-bas, dans ce livre-là, il raconte, comme ça m'a raconté ce rave, je n'ai pas vu moi-même écrit, que Maïmonide, lorsqu'il est arrivé là-haut, il s'est fait un peu taper sur la tête. Pourquoi? Comment t'as été contre la Kabbalah? Tu as dit que beaucoup de choses qui sont marquées dans le Talmud, telles que les talismans, les démons, les hachim, les formules un peu magiques qu'il y a, tout ça, c'est de façon allégorique. C'est pas, toi, tu es extrêmement rationnel, donc tout ce qui est un peu rationnel, lui, il a dit, c'est allégorique, c'est pas vraiment que c'est comme ça. Or, d'après la mystique juive, et comme ça, c'est l'acceptation aujourd'hui du peuple d'Israël, de tous les grands rabbins depuis des siècles et des siècles, ces choses-là ne sont pas allégoriques, il y a une réalité irrationnelle qui existe, oui. Alors, c'est pas bien. Rama m'a dit, oui, mais c'est quand même pas de ma faute, je n'étais pas au courant, je n'ai pas reçu, donc... Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? D'un côté, c'est pas bien ce qu'il a fait, d'un côté, il est inconscient, c'est irresponsable, c'est pas de sa faute. Alors, c'est marqué qu'il a été, entre guillemets, condamné à revenir sur Terre et à ne pas revenir sur Terre. Comme ça, c'est marqué. C'est-à-dire quoi, revenir sur Terre, pas revenir sur Terre? Qu'il est mort-né. Il est rentré dans une âme qui est mort-née. Comme ça, il a goûté un peu de l'odeur terrible de Olam Hazeh. Quand on est là auprès de Dieu, revenir ici dans ce monde, c'est terrible. Pourquoi les enfants, ils pleurent un peu quand ils naissent, parce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils viennent de quitter comme monde et dans quel monde terrible ils se sont engagés. hein, et il est mort quelques secondes après. Donc il a quand même dû goûter un peu de Olamazé. Donc ça arrive aussi qu'avant 13 ans, des gens soient décédés. Ça, goûter déjà Olamazé, c'est tout ce que c'est être enfant, quelle souffrance c'est. Être en enfant, tu vois, tu pleures beaucoup. Puis après, tu commences les 6 mois, tu commences les dents, tu as mal aux dents. Après, les dents qui tombent, les oreillons, les maladies, les gosses à l'école. C'est une souffrance d'être un enfant. C'est très dur. Rien que ça, c'est... Donc c'est une grande capara. Quelqu'un qui rien qu'être enfant dans ce monde-là, c'est déjà pas facile. Et tout a un sens. Alors, l'histoire de du petit cheveu blanc. L'histoire, elle est comme ça. C'était un vieux monsieur ici à Meacharim, qui, c'était au moyen sexe cette histoire-là, qui, c'était très bizarre, parce qu'il était déjà très très vieux, mais tous ses cheveux étaient noirs, il n'avait aucun cheveu blanc. Un beau jour dans la synagogue, et il a déjà 90 ans, et ses copains disent « Ah, Mazal Tov, enfin tu deviens normal, ah, t'as 2-3 petits cheveux blancs là, dans la barbe. » Eh ben dis donc, 90 ans, ben, c'est pas trop tôt. Le type devient tout blanc, tout pâle, il va se voir dans la glace. C'est vrai, il y a deux, trois petits poils blancs. Il rentre à la maison, il dit achetez-moi rapidement une tombe, achetez-moi tout ce qu'il faut, j'ai quelques jours à vivre. Fini. Effectivement, quelques jours plus tard, il est décédé. Pourquoi ? Le secret de l'histoire, c'est que lui, quand il était jeune, il a rendu service à un vieux rabbin qui était Rabbi Kaveh Eger, qui était un des grands de la génération. Et Rabbi Kaveh Eger lui a fait une bracha qu'il vivra très très longtemps. Alors le petit enfant, il dit, et comment je serai quand je devrais mourir? Eh bien, tu sais quoi? Lorsque tu verras quelques petits poils blancs dans ta barbe, tu sauras que la fin de ta vie est proche. Et comme ça, effectivement, ça a été... Baruch Adonai, le Rem Amen Amen. Oui, il y a une question? Ouais.
Alors, tout à l'heure, vous avez dit que quand on fait d'Averot, on peut faire Teshuva, et à ce moment-là, ça efface, c'est les décrets. Maintenant, quelqu'un qui fait d'Averot en se disant, voilà, je ferai Teshuva plus tard, ça marche forcément différemment, quoi.
Ça marche très bien. Oui, même Chazal conseille cela. Disent, amuse-toi toute ta vie, vas-y, éclate-toi, les langoustes, les homards, les truies, les huîtres, les crevettes, les tout ce que tu veux, éclate-toi, le club Med, le club Atlantique, le pôle Pacifique, tous les clubs que tu veux, éclate-toi. Fais tchouva le jour de ta mort, t'as gagné les deux camps. T'as gagné là et t'as gagné là. Si tu vas par amour, tu vas par amour. Parce que la tchouva, par crainte, elle descend du degré méside, c'est-à-dire prémédité volontaire, à involontaire. C'est déjà pas mal, mais il y a quand même des péchés involontaires. Mais si tu vas par amour de Dieu, tu changes tous les clubs med en club paradis. D'accord ? En tous les anges du mal sont changés en anges du bien, en mérite. Donc ça marche très bien. Mais il y a un petit 1, d'accord, dessous. Chazal dit, tu sais pas quand tu vas mourir. Tu sais pas quand tu vas mourir. Donc tu risques de... Et là, t'as tout raté. Donc il te conseille, fais tchouva tous les jours. Kol yamecha yub gadecha levanim. Que tous les jours de ta vie, tes habits soient blancs. Vous connaissez l'histoire de Hafetz Chaim, je raconte une fois, je vais la raconter ici, elle est très très belle. Hafetz Chaim partait. Le Hafetz Chaim s'enfermait dans sa chambre en haut, tous les jours, comme ça, une petite demi-heure, pour faire son moussard. Un jour, un élève a voulu voir comment il faisait ça. Alors, il s'est caché dans l'armoire, et voilà Chafetz Chaim qui rentre, et qui se met à se parler. Il dit, Israël Meir, Chafetz Chaim s'appelait Israël Meir, tu te prends pour quelqu'un, hein? T'as écrit Mishnah Boura, t'as écrit Chafetz Chaim, encore l'appel de Gemara, les Cheval de Radin, mais tu te rends pas compte que t'es un nul. Pour qui tu te prends? Israël Meir, tu vois, un jour, tu vas tomber malade. Et ça ira de moins en moins bien. Mais, vu que tu es un grand rabbin, toute la ville va se mettre à prier, dans le monde entier, Tehillim. Et on sait que Dieu, Rahamav Merubim, même si une épée est posée sur la nuque de quelqu'un, qui ne soit pas Mithyash Mina Rahamim, qui se décourage pas de la miséricorde divine, donc tu vas te renforcer vers ta chaîne encore. Mais après quelques jours, on apprend, Chafetz Chaim est décédé. Comme quoi, pas toujours les prières peuvent empêcher la mort. Il est mort. Très âgé, Chafetz Chaim, voilà, était décédé. Et on t'amène au cimetière, on t'enterre, là-bas on fait tous les discours, et tu montes au jugement, Olam Haba, jugement du tribunal céleste. Et on amène les mitzvot que tu as fait. Beaucoup de mitzvot. Après, on a tout à coup. Non, on a beaucoup de mitzvot. Et on te dit tout à coup, ok, tu peux y aller. Paradis! Tout à coup, on entend une voix, halt! Quoi paradis? Vous savez de qui on parle maintenant, de Chavisarim, quelle grande âme il avait? Un homme pareil, regardons un peu les mitzvot. Oui, il a fait des mitzvot, mais quelle qualité de mitzvot? Il aurait pu faire avec encore plus de ferveur. Avec, c'était un grand Israël, t'es responsable de tout. Il y a des gens qui n'ont pas été voir. Il aurait dû faire beaucoup plus pour Am Israël. Et on voit, c'est vrai. Pas tout est fait comme il faut, absolument 100% Israël Meir. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a eu pour finir? Eh bien, il y a eu status quo. Il y a des mitzvot, mais il n'y a pas suffisamment. T'es exactement à moitié, moitié. Tu ne peux pas rentrer au paradis, ni en enfer, tu restes là. Qu'est-ce qu'on fait? Le tribunal céleste a tranché, il a dit comme ça. C'est effectivement, Chavetz Chaim maintenant, il n'a pas d'occasion de faire mieux. Alors, on lui donne quand même le paradis. Dieu, maté klaper chesed. Si c'est moitié-moitié, on penche plus vers le bien, on peut rentrer au paradis. Mais s'il a l'occasion, pourquoi fait pas tchouva? Israël Meir, tu as l'occasion maintenant de changer. T'as pas fini ta vie, tu es moitié-moitié. Pourquoi tu changes pas? Et toujours comme ça. Nous, on croit qu'on va... Un grand, comment il faisait sa tchouva? Tous les jours se regarder à moitié-moitié. Qui dit? D'après, on ne sait pas quelle âme on a, quel est notre potentiel. Peut-être qu'on est beaucoup en deçà de ce qu'il faut. Ou on est juste limite. Le Rambam dit, l'âme, toujours que l'homme se regarde moitié mitzvot, moitié averot. L'effet de mitzvah, il s'est basculé du bon côté. Une avera du mauvais côté. Donc on est vraiment, c'est là que ça se joue. Donc, comme dit Chazal, tous les jours que tes habits soient blancs. De plus, il est marqué. Celui qui dit, je vais pécher, après je serai tchouva. On l'empêche de faire tchouva. C'est pas que c'est impossible, c'est pas impossible, rien n'est impossible si on fait tchouva, mais c'est très dur pour lui. Pourquoi? Parce que la tchouva, surtout on parle de tchouva par amour, c'est un sentiment qu'on peut pas provoquer de façon artificielle. Je peux pas me dire, on est maintenant mardi, ok, jeudi je fais tchouva. Viens jeudi, faut regretter, faut dire qu'est-ce que j'étais bête de faire ça. Je prends sur moi de changer. Ça, il faut que tu aies un courant de sainteté bizarre qui te vienne du ciel. De quelque part, ta neshama, tout coup, tu as un éclairage, une lumière qui te dit, mais comment j'ai pu faire ça? Et là, tu fais tchouva. Cet éclairage-là ne viendra pas. On t'empêchera. Et de plus, donc, les forces négatives, toute cette enveloppe de tum'a, de forces négatives qui nous entourent, elles te poussent encore, et encore un jour, elle est encore demain, tu feras tchouva, encore un jour, et pac! Donc, Rav nous conseille, fais tchouva tous les jours. Baruch Adonai, l'Olam Amen, deuxième édition.